La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ensemble sur Radio Grenouille pour une émission de La parole au travail. La loi El Khomri, cette loi travail, me laisse un goût tenace de paradoxe. Il y a en effet deux manières de concevoir le contrat de travail, nous dit Alain Supiot, professeur au Collège de France dans son livre « Critique du droit du travail ». Pour la première, le contrat de travail est un contrat de vente comme un autre. Un salarié vend son travail, ou plutôt son temps de travail. Un patron lui achète. Et selon la sainte loi de l'économie de marché, il revient au vendeur et à l'acheteur de fixer le prix et les conditions de leur échange. Et seul. Toute autre intervention viendrait perturber les mécanismes du marché, seule voie d'accès au bien commun, c'est-à-dire ici au bien-être et à la satisfaction. Pour la seconde manière, entre celui qui vend son travail et celui qui l'y achète, il y a la loi. On ne peut ainsi vendre à n'importe quel prix son temps de travail. Je ne suis pas libre de vendre mon temps de travail 1 euro de l'heure parce qu'il y a le salaire minimum. Je ne suis pas libre de travailler 50 heures par semaine parce qu'il y a un encadrement du temps de travail. L'acheteur et le vendeur ne sont pas libres des termes de leur échange. La loi intervient parce que le travail est un bien particulier. Il est attaché au corps et à la personne. Parce qu'il n'existe en fait pas de travail. Seulement des hommes qui travaillent. Et on ne peut vendre, sous nos latitudes, ni un corps, ni un homme. Ce que nous voyons émerger, sous la loi dite El Khomri, dans un mouvement qui dépasse largement notre gouvernement et la France, c'est justement l'abrogation de la loi dans l'encadrement du contrat de travail. Ce qui transpire de la loi El Khomri, c'est le contrat marchand comme modèle du contrat de travail. C'est l'affaissement de la loi et de son initiateur, le peuple et ses représentants. C'est l'abandon de celui qui vend son temps de travail au face-à-face avec celui qui l'achète. Et tout salarié sait combien peut être inégal ce face-à-face. Entre celui qui vend son temps de travail pour vivre et celui qui l'achète comme moyen de production. Aujourd'hui, pour cette émission de la parole au travail, nous entrons à nouveau dans une usine aéronautique. Nous allons entendre le plaisir qu'il y a de s'y faire une place, surtout s'il s'agit d'un joli coup où l'ancienneté prend 20 ans d'avance. Mais nous allons aussi entendre comment il peut s'agir d'en sortir avant que tout le monde ne se soit fait dessouder. Bonne écoute sur Radio Grenouille.
Et surtout, surtout la dégradation des rapports humains, c'est ce qui te fait ce qui te fait quand même venir au travail, quoi. Quand tu vois tes collègues, tu te sens bien avec eux, bah tu travailles mieux aussi. Voilà. Bon, il y a toujours, là je suis vraiment pessimiste, mais il y a toujours un peu des échanges. Il y a beaucoup de gens qui se voient en dehors, quoi. Hein. Là, quand tu vas chez Airbus, tous les jeunes, bah des fois le week-end ils sortent ensemble, hein, y a pas de problème. Hein. C'est au boulot, moi je te parle. Au travail, c'est vraiment dégradé. Et quand je te dis, ouais, c'est dès que tu t'entends bien avec quelqu'un, que tu as une bonne ambiance, une bonne équipe, que tu es soudé, bah, t'es dessoudé d'un coup. Quoi. Tu pars à droite, à gauche. Dès que ton responsable, il sent qu'il n'a plus la main sur toi. Dès que ton responsable, même s'il fait bien ton travail, dès que ton responsable, il sent qu'il n'a plus la main sur toi, il fait tout pour casser le groupe. Moi, j'ai fait un BTS productique. J'ai fait l'école SNECMA. J'ai redoublé ma seconde, j'ai refait une seconde. À la fin de ma deuxième seconde, bah, j'ai fait un concours. J'ai passé l'école SNECMA, c'est l'école nationale d'études de construction de moteurs d'avion dans l'aéronautique. J'ai fait un BEP. Après, je suis parti, j'ai repris la première. J'ai fait bac mécanique et BTS productique. Voilà. Après, je dis, j'en avais marre d'habiter en région parisienne. J'ai trouvé un boulot déjà là-bas, parce que j'ai fait des stages à l'ANPE là, pendant les vacances. Je faisais des stages à Pôle emploi. Donc, j'ai regardé les systèmes et j'ai vu qu'il y avait des postes contrôleurs. Hop, j'ai tombé là-dedans. Et j'ai trouvé un premier boulot là-bas. Ouais. Un contrôleur, alors tu fabriques des pièces en fait. Il y a des entreprises qui fabriquent des pièces mécaniques. Et toi, tu les contrôles pour voir si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises. Voilà, c'est un contrôleur qualité en fait. Donc moi j'étais tout jeune, hein, donc je faisais des contrôles simples, quoi. J'ai fait ça 4 ans, Après, j'ai dit, putain, faut que je me fasse licencier de là-bas, je peux pas faire ça toute ma vie. Il pleuvait, j'avais envie de descendre en région marseillaise. Je dis, bah écoute, je vais dire que je monte un bar en Espagne, parce qu'on est, je sais pas pourquoi j'ai dit Espagne. Comme ça, je vais essayer de m'arranger un licenciement pour gagner le chômage, en fait, pour toucher le chômage. Ben moi, j'adore changer. Quand je fais toujours le même truc, au bout d'un an maximum, j'en peux plus, quoi. J'ai envie de bouger, j'ai envie de changer. Sinon, j'ai l'impression d'être en prison. Ça m'a toujours fait ça. Il y en a qui font ça toute leur vie, quoi. Ouais, c'est un peu. De toute façon, travailler en usine, c'est souvent répétitif. Hein. Tu fais souvent les mêmes pièces. Tu fais souvent le même travail, ouais, bien sûr. Ouais. Donc tu as des pièces différentes, mais bon, la base du travail, c'est quand même de contrôler la pièce, donc tu contrôles toujours avec telle machine. Non, il y a des choses intéressantes, hein, mais après tu as l'impression d'étouffer quand même. Enfin moi, c'est ce que ça me fait le travail, ça, quand t'as pas de liberté, t'as l'impression d'étouffer au bout d'un moment. Du coup, j'en avais marre, j'ai passé un diplôme d'éducateur sportif. Rien à voir ça. J'ai dit putain, j'étais bien là, pendant un an à Arles, j'ai fait ma formation, et après j'ai fait coach à domicile. J'ai acheté un camion et puis j'ai été démarqué tous les riches des Alpilles, quoi. Ça, c'était marrant, ça, avec mon petit camion. Mais du coup, je m'étais pas... Alors, j'avais négocié le truc avec Pôle emploi pour gagner un peu d'argent. Mais j'avais pas de numéro Siret, en fait. C'était en cours. Parce que, et j'ai calculé, putain, dès que si j'étais passé indépendant là-dedans, j'aurais coulé direct. J'aurais pas eu assez d'argent. Je devais me faire aller 1500 net. Mais si j'étais déclaré, j'aurais dû reverser, je coulais, quoi. J'avais même pas la moitié d'une paye. Et là, par contre, c'est là que c'était dur, parce que là, j'avais plus de taf, quoi. Et j'avais juste cette formation et un peu d'années de contrôle. Et je regarde sur... Non, c'est pas ça. Je retrouve un boulot à la Ciotat. Pareil dans le contrôle, ce que je faisais au début. Et pareil, je reste un mois, le patron super con qui traitait les employés comme des moutons. Tu partais, tu finissais à 4h30, si tu partais pas avant 5h30, tu étais considéré comme quelqu'un qui était un rebelle, alors que tu faisais déjà une heure de rab non payée. Je suis resté un mois et je me suis dit, putain, c'est quand tu as du travail qu'il faut chercher du travail, quoi. Donc du coup, je regardais Pôle emploi, machin, je regardais les affiches, et là, je retrouve un truc, Eurocopter, recherche... contrôleur qualité sur hélicoptère, j'ai jamais fait ça. Fallait certains diplômes, certaines expériences, quoi. J'ai fait copier-coller sur mon CV, tac tac, j'ai juste mis mes bons diplômes, c'était vrai, et je me suis inventé de l'expérience de dingue, quoi. J'ai fait tout d'un coup, j'avais 20 ans d'expérience dans les hélicoptères, quoi. Je te raconte le truc. En fait, c'est le dernier jour, j'étais à la Ciotat, le dernier jour de mon mois d'essai, ça dure un mois, j'étais embauché, on me téléphone, oui, écoutez, il faut commencer lundi, on vous prend, vous êtes, faut commencer lundi, vous avez 15 personnes à manager, et vous commencez lundi à Eurocopter. Je fais, mais comment ça se fait, je suis tombé des nues, quoi. Je fais, mais écoutez, ben là, je sais pas trop, parce que ça me faisait peur, du coup. Et du coup, j'étais embauché à l'autre, là, comme j'avais fini mon mois d'essai. Je fais, mais au niveau du salaire, c'est intéressant. Bah écoutez, putain, me dit le salaire, c'est le double de ce que je gagnais là. J'ai fait, bon, pas de problème. J'ai fait ma petite lettre comme ça. Je suis allé directement la poster dans la boîte aux lettres du patron et une à la poste. Et je suis pas revenu le lundi à mon boulot à la Ciotat, quoi. En fait, c'était une entreprise qui sous-traite. Il y a beaucoup de sous-traitants à Eurocopter. Et ils avaient chopé un marché. Et le mec, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec, ils avaient embauché. Pareil, il comprenait que dalle. Il était rentré, il a fait non, bah moi, lui, il était reparti, quoi. Et donc, il cherchait quelqu'un tout de suite. Et donc, mon CV est arrivé, là, et ils m'ont pris direct. Je suis arrivé à 8h30, je suis proposé. Je dis, bah salut, moi, je suis le nouveau. En fait, j'étais responsable qualité. C'était pire. Je manageais carrément le chantier en qualité, quoi. Je comprenais que dalle. Ouais, tac, mach. Je suis voilà, je suis en fait des portes, ouais, ils faisaient des portes composites, quoi. Oui, on fait des portes, ils se présentent, machin. Et puis je fais bon, d'accord, ok. Alors qu'est-ce que je fais dans ma tête? Je fais qu'est-ce que je fais là? Il fait ouais, alors voilà, le patron, il viendra 3 jours après, il va te rencontrer. En attendant, alors il me téléphone. Oui, monsieur, moi je viens dans 3 jours. Ben vous regardez un peu ce que fait l'équipe et puis vous préparez un plan qualité. Un plan qualité quoi? Je fais qu'est-ce que c'est ça? Plan qualité. Alors du coup, je fais ouais, d'accord. Je rentre le soir chez moi, je regarde sur internet plan qualité. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, laisse tomber, je comprenais que dalle, pas une phrase. C'était les moyens de mettre un plan qualité. En fait, c'est des moyens que tu vas mettre pour assurer la qualité du produit que tu fais, quoi. C'est des mesures qualité que tu fais. Traçabilité de la pièce, un plan qualité pour surveiller si elle n'est pas bonne, qu'est-ce que tu dois faire, quelle phase tu peux. Enfin, monter un dossier en fait avec toutes les phases qualité qui assurent la qualité de ton produit. Un truc que je ne connais pas, parce que moi j'étais contrôleur, je n'étais pas responsable qualité. Donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait. Quand je suis rentré, j'ai tout de suite vu, on était 2 boîtes de sous-traitantes. Sous-traitance, il y avait la nôtre et puis celle d'à côté. Et du coup, je n'allais pas voir les mecs au début. J'ai dit débrouillez-vous, comme je savais que j'avais 3 jours de battement. Je vais voir carrément l'autre boîte et j'ai vu le responsable qualité qui faisait comme moi, quoi. Je fais salut, moi je suis nouveau responsable qualité d'à côté. Hein. Je fais je te paye un café, puis je sympathise avec lui. Et puis bon, le lendemain matin, direct, c'était le 3e jour, le patron il venait l'après-midi, quoi. Je fais excuse-moi, t'as fait un plan qualité toi pour tes mecs? Oui, bien sûr. Je fais putain, nous on est à la bourre, je suis en plein dedans, tu pourrais me le passer, tiens? Il fait bon, écoute, ouais, mais bon, tu dis pas, tu dis ça reste entre nous, quoi. Je fais ouais, pas de problème. Hop, copier-coller. J'ai copié-collé son truc qualité. Mais vite fait, quoi. Nanananana, j'ai pris les grandes phrases, toute la journée, j'étais à l'aérocoptère, j'étais dans mon petit bureau, L'après-midi, il y a mon responsable qui vient, il est arrivé à 4h pile poil. Il est arrivé avec cravate, machin, monsieur Manté. Hein. Alors voilà, vous avez pris un peu le. Alors j'avais pas parlé encore au mec trop, tu vois. Je fais oui, écoutez, voilà, j'ai fait une trame du plan qualité, je l'ai posé sur la table. Putain, il fait putain, merci beaucoup, bravo, tac, il prend avec lui, il dit putain, vous avez pas perdu de temps, je n'ai pas de soucis, quoi. Et du coup, je suis passé direct avec lui, quoi. Mais le problème, c'est que le 4e jour, alors lui, il a juste fait l'aller-retour, il a repris mon plan qualité et puis il a été le présenter là-haut. Donc il a terminé, parce que moi j'avais fait la trame, lui, il m'a aidé, parce qu'en fait, le responsable, ça devait être lui, quoi. Et donc, du coup, là, je suis arrivé vers les mecs, et là, du coup, je comprenais rien ce qu'ils faisaient, quoi. Et les mecs, ils m'ont démasqué, quoi. J'aurais dit, ils pensaient que j'avais 20 ans de maîtrise, et moi, j'arrive, je connais rien. Tout de suite, quand ils me parlaient des trucs, ils voyaient bien que j'étais comme ça, quoi. Ouais, je savais même pas quoi faire du tout. Et du coup, je me suis pris la tête avec un jeune un jour. Un jour, je sais pas quoi, le jeune, il me dit, ouais, mais tu comprends rien, toi, machin. Et là, j'ai regardé dans les yeux, je fais, quoi, je comprends rien? Je viens dehors là, on va voir si je comprends rien. Et du coup, il allait se plaindre à mon responsable au téléphone. Ouais, monsieur, il s'énerve, il veut se battre et tout ça. Alors mon responsable qui m'appelle, je dis non mais attendez, faut mettre les points sur l'œil, monsieur. Faut ça. En fait, je suis tombé dans un boulot que je savais pas du tout, j'avais pas du tout d'expérience là-dedans, quoi. Et donc je m'en suis créé comme ça, quoi. Donc à force de me chauffer avec les mecs quand ils me disaient il y a un problème, je dis il faut appeler le bureau d'études. Je dis écoute, je m'en occupe. Je partais, et je revenais pas, quoi. Je revenais le lendemain. Et le lendemain, il avait trouvé la solution avec quelqu'un d'autre, quoi. Et du coup, je faisais fais voir. Ah ouais, excuse-moi, j'étais en réunion hier. Fais voir. Ah ouais, d'accord. Je regardais bien la réparation qu'il avait faite. Et puis je lui ai fait ça 4-5 fois à chaque fois, ils étaient 15, donc à chaque fois le mec il me disait il y a un problème, je le connaissais pas. Je lui ai dit ouais, ok, je m'en occupe, et je revenais pas, quoi. Je revenais le lendemain et c'était fini. Et du coup après je savais tous les défauts, quoi. Et au bout d'un moment, au bout de 2 mois, là faut faire ci, là faut faire ça, j'allais chercher, après ça s'est mis en place tout seul, quoi. Non, quand il y avait des défauts, ils trouvaient pas les solutions tout seul, c'est que comme moi je devais revenir, je revenais pas. Et ils se débrouillaient, ils allaient voir l'équipe, comme il y avait une autre équipe de sous-traitants à côté, c'est l'autre qui faisait le boulot, ils disaient, ah ouais, mais nous, on fait ça pour réparer, machin. Ils cherchaient des solutions, ouais, mais c'était des bonnes solutions. Après, là-bas, c'est structuré, t'as comme un bureau d'études qui vient, qui te propose une solution à la réparation. Mais t'as des choses plus simples où là, c'est vraiment la responsable qualité qui dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça tu laisses. Et ça, j'avais aucune expérience là-dedans. Donc, je faisais, attends, excuse-moi, j'étais en réunion, chaque fois, je dis un truc bidon, quoi. Et je suis passé comme ça. Par contre, mon responsable, il m'adorait. Comme j'ai fait le plan qualité direct, lui, il descendait. Et il me kiffait, quoi. Je suis tombé tout de suite avec lui. Donc, du coup, après, on a eu un autre chantier avec d'autres mecs. Et il m'a repris, moi. En responsable qualité, toujours. Alors que j'étais déjà un escroc sur la première partie. Je me retrouve là carrément en structure, quoi. Tout l'appareil entier, quoi. Et, tout l'appareil entier à faire. En fait, j'avais rien à perdre. Je me suis dit, putain, je suis là-dedans. Moi, ça fait une expérience. Au pire, si je suis viré, bah, je retournerai. Je reviendrai en intérim. Une fois que je connaissais bien comment ça marchait les portes, bah, je retournerai dans les portes. J'ai juste eu 2 mois difficiles. Mais le soir, j'allais sur Internet, je regardais ce que c'était, les contrôles qualité, machin, les problèmes de portes, c'était déjà arrivé. J'essayais de m'informer sur l'aéronautique des hélicoptères, quoi. Bah, je me suis formé sur le tas, ouais. Mais puis j'avais des aides. Ouais, j'ai cherché, ouais, bien sûr, j'étais obligé. Ouais. Internet est beaucoup. Alors là-bas, c'est bien dans ces boîtes-là, c'est que il y a toujours de l'aide quand même. T'as plein de personnes, donc tu te fais toujours aider. Les mecs sont assez sympas. Ça a changé maintenant, mais avant, c'était comme ça. T'allais voir un mec, il disait, voilà, je suis emmerdé là-dessus, comment tu fais, toi? Et puis il te disait la réponse, quoi. Donc je me suis débrouillé comme ça. Hein, mais il y a toujours quelqu'un qui connaît la solution, qui va te dépanner. Donc, et après, t'es sympa avec les mecs. En fait, c'est tout ça. Il suffit juste d'aller leur parler. Après, il faut un peu de bon sens quand même. Mais t'as vite fait le tour après. Hein. C'est pareil, c'est toujours les mêmes défauts qui reviennent. C'est comme tout travail. C'est comme ça que t'apprends. Après, ça s'apprend vite. Hein. Mais au début, quand même, quand t'es arrivé là-dedans, c'est un autre monde. C'est vachement grand. Tu te dis, putain, qu'est-ce que je tombe? Je connais pas du tout ça. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais après, tu te dis, putain, la paye que je gagne. Tu te dis, je vais faire le maximum. Que des hangars, ouais, avant ça tournait, maintenant il y a un peu moins de monde, mais c'était grand hangar, il y a 400 personnes en équipe, quoi. C'est de l'assemblage, ouais, du montage, assemblage, ajustage. Donc j'ai démissionné, je suis rentré en intérim, justement au montage BTP. Là c'est pareil, je suis arrivé, je connaissais rien, c'est du contrôle, mais c'est encore un contrôle que je connais pas. C'est rien à voir, le contrôle. Donc je suis arrivé, le responsable il m'a dit, tu sais faire ci, tu sais faire ça. J'ai fait non. J'ai travaillé là-bas. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait il avait un drapeau de Perpignan derrière lui, quoi. Il avait un accent aussi. Je suis à Perpignan, il y a une belle équipe de rugby là-bas. Il fait, tu joues au rugby? Je suis j'en ai fait 20 ans du rugby. Je suis moi aussi et tout. Ça sympathisait. Bon, bah écoute, je te prends. Par contre, tu restes dans mon bureau une semaine, tu relis bien les plans, parce qu'il ne faut pas que tu passes par un tocard devant les mecs. Je suis resté une semaine dans son bureau à regarder ce qu'il fallait faire, tac, 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 tac. Et voilà, quoi, je suis rentré comme ça. Ah ouais, je me suis plongé dans les plans, tac, tac, une semaine, je suis sorti discretos, et après, c'est pareil, j'avais plein de mecs, hein, qui m'appelaient, contrôleurs, tac, tac, tac. Je suis arrivé doucement, puis voilà, quoi, ça s'est fait. C'est pas plus compliqué, mais t'as plus de phases de contrôle, quoi. Là, tu fais une page, t'as 3 contrôles, une page, t'as 3 contrôles, donc tu suis vraiment le montage. Alors que la structure, c'est un contrôle au début, à la fin, en gros, et puis voilà, quoi. Là, c'est vraiment, tu valides chaque phase, quoi. Mais il y a beaucoup de problèmes, il y a des gens, il y a des contrôleurs qui ont été virés, quoi. Moi, j'ai failli être viré, d'ailleurs. Je devais contrôler. Il y avait une petite pièce coincée dans un tuyau. Alors, quand tu contrôles tout comme ça... En fait, tu fais des contrôles par phase. Et à la fin, tu fais un contrôle total. Et tu as aussi des phases où c'est le mec qui s'autocontrôle. Il a un tampon. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Il y a certaines phases qu'il fait, lui. Donc, ces phases d'autocontrôle, tu ne les vois pas, toi. Par contre, à la fin, tu dois faire un contrôle. À la fin, quand tout est monté. Et là, je n'ai pas vu qu'il y avait une petite pièce toute minuscule, un capuchon qui était coincé dans un tuyau. Et c'est parti, ça a été monté. Et quand le pilote, il est monté dedans, bah, ils se sont aperçus que lui, il a passé pas dans ce tuyau, quoi. Donc c'était en surchauffe et l'hélico aurait pu tomber, quoi. Donc voilà, j'ai été convoqué chez les grands patrons, machin, j'ai dû m'expliquer. Et donc ils ont essayé de trouver la faille. Pourquoi moi, j'avais pas vu ce truc-là, quoi. C'est le mec qui a oublié d'enlever ce capuchon, qui devait l'enlever pour souffler dedans. Il l'a pas enlevé. Et moi, à la fin, en fait, ils assemblent les boîtes. La boîte, elle est suspendue à un pont. Et elle vient s'insérer dans une autre boîte en bas, quoi. Et donc moi, j'ai regardé la boîte en bas, la boîte en haut, je la regardais vite fait comme ça, mais elle était perchée. S'il y a un truc dans un tuyau, tu dis, il va tomber, quoi. Et là, non, c'était coincé dans un truc. Donc ouais, c'est une erreur de ma part, mais... Ouais, mais toi, t'es contrôleur, t'es payé pour voir... Alors, tu vois plein de trucs. T'es contrôleur, tu vois plein de trucs que tu sauves, que... T'aurais pas vu ça, l'hélicoptère, c'est pareil, il avait une couille, quoi. Il tombait, quoi. Mais quand tu fais une erreur... Donc, tu essayes de. Mais tu peux pas tout voir, c'est vrai, il y a des choses que tu peux pas voir. Et quand la prod, c'est pareil, quand la prod avait absolument l'appareil et que t'as pas eu le temps, mais dès que tu mets ton tampon sur une feuille, que tu valides la phase, c'est toi, c'est t'engages ta personne, sans avoir toujours les moyens de bien le faire. Mais sache que même si t'as pas les moyens de bien le faire, si l'hélico il part, parce qu'on va te, ils sont tous de ton côté hein, pour faire partir l'hélico. Par contre, quand il y a une couille, t'es tout seul, quoi. Et même la personne qui ça fait 20 ans qu'il faisait ça, quoi. Il n'a pas vu ce truc-là, il est passé à côté, je sais pas, ça arrive à tout le monde. Enfin, ça paraît bête comme ça, mais lui, là, je crois qu'il s'est fait virer d'ailleurs. Lui. J'ai l'impression d'être un criminel, quoi. Faire ça, je me verrais pas faire ça toute ma vie, ça ouais. C'est au bout d'un moment, t'as fait le tour quoi. Et puis surtout moi maintenant, je te dis, moi j'y vais aussi pour les valeurs humaines quoi. J'adore. Attends, il y a 400 bonhommes, t'aimes bien discuter avec eux quoi. C'est ça l'ambiance du travail. Et maintenant c'est fini tout ça. Et les groupes qui s'entendent trop bien, même qui travaillent bien, mais qui s'entendent trop bien, ils les séparent. Ils prennent des ingénieurs pour un boulot de bac. Voilà, maintenant c'est. Donc c'est des jeunes sérieux qui viennent des études, qui sont dans leur monde. T'as plus d'échange en fait. Et le problème c'est que t'as plus d'échange. Et au niveau de la hiérarchie, t'as vraiment des frictions. C'est inexplicable pour moi. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils ont cassé tout ça quoi. C'est arrivé d'un coup. Ça a changé. Je pense qu'ils ont changé de direction. Ils ont changé de manière d'organisation, de manière de manager. Ils ont tout changé. Ils ont dit voilà maintenant c'est fini. Il y a plus peut-être trop de social. Ça leur faisait pas plaisir. Et peut-être que de rentrer trop, d'échanger trop avec les personnes, ça leur plaît plus. Et quand tu t'entends trop bien avec tes camarades, eh ben, ils te cassent le groupe. Quand je suis rentré en mécanique, j'ai vu que ça avait carrément changé. Ouais, c'est très chaud, c'est carrément chaud, parce qu'en plus, t'es tout seul. Quoi. Moi, j'ai eu des problèmes, moi, alors que j'ai rien fait. Quoi. J'ai eu des problèmes, c'est monté au RH, parce que j'ai fait des heures sup, et ils n'ont jamais voulu me les payer. Alors, je voulais les récupérer, ils n'ont jamais voulu, et ils n'ont jamais voulu me les payer aussi. Donc j'ai failli les attaquer au prud'homme. Là, ça s'est débloqué seulement maintenant. Avant, il y avait toujours un ancien qui t'apprenait le travail, machin, un ancien qui avait de l'expérience et qui en faisait profiter les jeunes, quoi. Eh ben, il n'y a plus ça maintenant. C'est fini. Tu peux plus t'appuyer sur les autres. C'est beaucoup plus dur qu'avant. Là, je pense que si je rentrais maintenant à Eurocopter comme je suis rentré au début, j'aurais vraiment plus de mal. Là. Je sais pas comment je ferais. T'as plus la liberté que t'avais avant. Et du coup, le moral, ça s'en ressent. Hein. C'est plus pareil. Il y en a beaucoup qui sont en burn-out ou qui se font arrêter, qui sont pas bien. Et alors, ils ont une nouvelle formule, le return in work. Ils ont ça, les managers. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui est pas là depuis 2 jours, il faut qu'il fasse tout pour le faire retourner au travail. Je sais pas quoi, ils doivent téléphoner, telle personne, qu'est-ce qui se passe pourquoi t'es absent, machin. Si la personne ne répond pas au téléphone, ils doivent passer par un autre service, mais ils doivent tout faire pour que la personne revienne travailler. Et il y en a beaucoup qui tombent justement dans burn-out. Là. Là, dans mon dernier travail en conformité, je viens d'apprendre la semaine dernière qu'il y a un collègue qui est parti en burn-out. Ouais, il s'est levé la journée, hop, il est parti pleurer même. Hein. Il est parti en pleurant et il n'en pouvait plus, quoi. Trop de pression, trop de... La hiérarchie qui lui tape dessus pour faire avancer les choses, il en pouvait plus. Il y en a plus en plus, ça. Ils ont un surveillant qui passe régulièrement voir ce qu'ils font. Quoi. Puis même quand t'as vraiment le grand chef d'atelier qui vient et qui te voit rigoler, pourtant tu travailles, hein, mais juste pas sur le travail. Pour lui, il faut que tu sois sérieux, il faut que tu n'as plus le droit d'échanger, quoi. Donc pour lui, ça ne lui plaît pas. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Je t'ai dit depuis tout à l'heure, je comprends pas pourquoi. Je sais pas leur formation de management. J'ai jamais fait de formation de management, mais je sais pas ce qu'ils apprennent là-dedans, quoi. Je sais pas. Je trouve que maintenant ils en font trop. Leur système de management. Je sais pas s'ils sont vraiment dans la réalité, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression, quoi. Non. Mais je suis sûr qu'ils connaissent pas. Ils sont parachutés ici. C'est pareil. Là, notre responsable qualité, il a été parachuté ici. Mais il est arrivé avec une formation de management qu'on lui a faite, là, comme tout le monde. Voilà, il est arrivé comme ça, il savait pas, il est arrivé dans un monde mécanique où la fraternité, les échanges, l'entraide, ça fait partie du truc. Et ben lui non, il connaissait pas ça, donc lui ça lui plaisait pas. Non, ils sont plus issus de, les responsables sont plus issus de la mécanique maintenant. Ils font des écoles, ils arrivent, ils sont parachutés ici. T'as plus les valeurs de l'humain en fait, t'as plus les valeurs, cet échange, voilà, avec ta hiérarchie, tu peux plus parler, tu peux plus dire la vérité au mec, tu peux pas échanger avec lui. C'est fini. Dès que tu dis un mot de travers, c'est foutu. Ça passe tout de suite au niveau au-dessus. Il n'y a plus d'explication. Je sais pas, c'est impressionnant. Notamment, il y a des suicides aussi qu'on ne parle pas à chaque fois à Eurocopter. Il y a des gens, il y a des personnes qui se suicident et on n'en parle même pas. C'est ça qui m'a toujours étonné, là. Quand il y a des choses là-bas qui se passent, c'est noyé. Qui se suicident dans l'usine. Sur le parking, il y en a qui a sauté du parking, qui s'est suicidé. Après, t'en as aussi qui rentrent chez eux, qui se suicident, qui se tirent une balle dans la tête. Il y en a. Et tout ça, c'est passé sous silence. Ouais, non, mais ça n'existait pas avant. Je pense que tout est lié à la hiérarchie. C'est soit t'as trop de pression, ou soit t'es mis au placard quand tu fais ton rebelle. Et quand t'es mis au placard, bah, t'entraînes le burn-out, là, qu'ils disent, là. C'est le contraire, quoi. Mais au placard, le mec, c'est un moins que rien, plus personne lui parle. Du jour au lendemain, un mec était responsable, il se retrouve dans un coin, à sortir des vis, quoi. Plus personne lui parle, c'est un truc de dingue. Et puis, comme nous, on peut même plus lui parler, comme ils ont fait leur hiérarchie, là, leur cloisonnement, il se retrouve tout seul, le mec. Soit c'est ça, ou soit c'est le mec, voilà, il a un poste de responsable, il faut qu'il livre tant, il n'arrive pas à sortir les trucs, ben, il y a trop de pression, le mec, il n'en peut plus, quoi. Il suffit qu'il ait quelques problèmes à l'extérieur, en plus, et puis voilà, c'est foutu. Non, c'est impitoyable, maintenant. C'est l'impression que t'es Dallas, quoi. Enfin, moi, c'est ce qui m'a choqué, quoi. Je dis, putain, mais qu'est-ce que tu veux bosser dans une entreprise comme ça, où t'as plus d'échange, t'as plus rien, tu peux plus rien faire. Dès que tu fais un truc de travers, t'es viré, ou t'es... C'est normal que les mecs, ils tombent en dépression, hein. En plus, avec la nouvelle loi qui va passer, la laisse tomber, quoi. Oh là 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 là. Je t'ai arrivé au bout, ouais. Après, voilà, après, c'est sûr que s'il n'y a vraiment pas de travail, j'aurais pas retrouvé du travail. Forcément, je me serais proposé, hein, pour une mission, mais vraiment, je voulais vraiment bouger et partir ailleurs, quoi.
La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.